nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui, et aussi l'épître d'ailleurs, sont des exemples typiques de l'importance dans l'explication des évangiles, l'explication des textes liturgiques, de suivre non pas nos idées personnelles, mais les clés données par les pères de l'Église. Vous savez que lorsque le protestantisme a commencé à détruire les âmes, un des points importants du protestantisme, c'est l'introduction du libre examen. Ce libre examen, on retrouve partout dans l'Église de Vatican II. Chacun va avoir sa propre interprétation sur chaque page de l'Évangile. Et donc, il faut mettre sa propre interprétation dans la poche, le mouchoir partout, on oublie, ça n'intéresse personne, et voir comment est-ce que les pères de l'Église ont interprété ces points-là. Ainsi, on se protège. On se protège parce que on ne cherche plus à défendre des idées personnelles ou des idées nouvelles. Bon, on essaie simplement d'avoir suffisamment d'humilité pour se soumettre à l'esprit de l'Église. Non pas qu'est-ce que je pense d'eux, mais qu'est-ce que l'Église pense de la chose. Et ça, c'est à mon avis très important pour éviter justement cet esprit moderniste et aussi pour éviter tout simplement les progrès dans nos âmes du protestantisme et de tous les principes libéraux d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on va faire encore une fois avec l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile nous parle justement encore une fois de l'épreuve. Nous parle justement de l'épreuve, encore une fois, nous parle de la mort du fils de la veuve de Naïm. Vous savez que chez les pères, la mort est toujours le symbole du péché. Donc la mort du fils de la veuve de Naïm représente le péché. Et donc le péché est mortel, puisqu'il y a mort. Donc vous savez que le péché véniel amène un péché mortel, mais la multiplication des péchés véniels en soi ne fait pas ce péché mortel. On peut commettre 10 millions de péchés véniels dans la journée, il faut éviter bien sûr. Mais le péché véniel, même multiplié, ne détruit pas la grâce sanctifiante. Par contre, le péché mortel détruit la grâce sanctifiante. Faites-nous donc des assassins, on tue notre âme littéralement. Donc on retrouve la même idée chez la lèpre. Dans la lèpre, le lépreux est aussi toujours un symbole du péché mortel. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui guérit un lépreux ou qui ramène à la vie quelqu'un qui est mort, représente justement le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ sur les péchés. Quel que soit le nombre de péchés mortels qui est le nôtre, quelle que soit notre vie passée, quelles que soient les offenses que nous avons faites au bon Dieu, à partir du moment où on sait se présenter devant le bon Dieu avec les conditions nécessaires, c'est-à-dire avec la contrition, avec l'accusation, avec la réparation, Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, il oublie. Et mes compteurs à zéro en quelque sorte, et du coup nous pouvons reprendre une vie nouvelle. Et on voit ça à travers tous les différents miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est Saint Augustin, dans les leçons du bréviaire d'aujourd'hui, qui fait remarquer qu'on ne voit, on connaît que les miracles dont l'Évangile parle. Bon, on est très impressionné évidemment par une résurrection. Imaginez que vous soyez au milieu de tous ces gens qui accompagnent ce jeune homme qui est mort et qui est conduit au cimetière et que notre Seigneur Jésus-Christ arrête le cercueil, arrête le cortège et sort de la mort, ressuscite devant vous cette personne, c'est vraiment extraordinaire. Mais Saint Augustin a fait remarquer qu'il y a des milliers de miracles qui ne se voient pas, c'est-à-dire des conversions qui, elles, sont discrètes. Personne ne les voit, on voit une résurrection corporelle, on ne voit pas une résurrection spirituelle. Et ces millions de résurrections spirituelles qui se font avec la grâce du bon Dieu par l'intermédiaire de la confession, de l'absolution sacerdotale, sont en soi bien plus importantes que ces résurrections physiques. L'Église nous parle, l'Évangile nous parle de 3 résurrections seulement de notre Seigneur. Il a fait 3 résurrections. Il a ressuscité les morts 3 fois. La première fois, c'était la fille du chef de la synagogue. La deuxième fois, c'est l'Évangile d'aujourd'hui, à savoir le fils de la veuve de Naïm. Et la troisième fois, c'est la résurrection de Lazare. Saint Lazare, le frère de Sainte Marie-Madeleine. Bien sûr, il y a sa propre résurrection. Et donc les pères, en différentes façons d'expliquer, mais en général, ils expliquent comme ça. Le premier cas, c'est le cas, on voit trois différences dans ces trois cas. Le premier cas, c'est le fils, la fille du chef de la synagogue. Elle vient de mourir et est encore dans sa chambre, sur son lit. Ça représente les péchés mortels de faiblesse. Ça ne représente pas le péché véniel, encore une fois, parce qu'on parle de mort. Donc, mort dit péché mortel. Péché mortel de faiblesse. Il peut y avoir des péchés mortels de faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a matière grave, il y a consentement, il y a connaissance, il y a faute grave, donc on a perdu la grâce sanctifiante, mais c'est une faiblesse. On regrette immédiatement ce qu'on a fait, on prend les moyens de ne pas recommencer, on va se confesser tout de suite. Péché mortel de faiblesse. Notre Seigneur Jésus-Christ a un pouvoir sur ses péchés, c'est pour ça qu'il va ressusciter la fille du chef de la synagogue. Deuxième étape, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Le fils de la veuve de Naïm. Quelle est la différence? Cette fois-ci, la personne est morte, elle est dans le cercueil est porté vers le cimetière. Ça représente les péchés mortels de malice. Péchés mortels qui sont multipliés, et là, évidemment, c'est plus grave parce qu'il y a une malice de l'intelligence, une malice de la volonté, et notre Seigneur Jésus-Christ a aussi pouvoir sur ces péchés-là. La preuve, c'est qu'il va ressusciter le fils de la veuve de Naïm. Troisième étape, c'est la résurrection de Saint-Lazare. Donc le frère de Sainte Marie-Madeleine, cette fois-ci, non seulement il est mort, non seulement il était porté dans le cercueil, au cimetière, mais il est au cimetière, la pierre a été fermée depuis 4 jours, et la peau de la putréfaction a déjà commencé. Cette fois-ci, c'est l'étape plus grave, si vous voulez, représente le vice. Parce que le vice du péché mortel, c'est plus qu'un péché de faiblesse, c'est plus qu'un péché mortel de malice, c'est un vice, c'est-à-dire que les racines sont encore plus profondes dans l'âme. Et là encore, le bon Dieu a pouvoir. Dans ces cas-là. La preuve, c'est qu'il va ressusciter aussi Saint-Lazare. Donc ceci doit nous encourager si vous n'êtes jamais découragé. Quel que soit l'état de notre âme, quel que soit le passé qui peut être le nôtre, à partir du moment où le bon Dieu voit chez nous la contrition de nos péchés, la douleur interne de nos péchés, qui voit aussi qu'on est décidé à éviter les occasions prochaines de péché, qu'on accuse correctement au confessionnal les péchés qu'on a commis et qu'on est prêt à les réparer, le bon Dieu pardonne. Alors, dans les Pères de l'Église, ils sont beaucoup plus loin dans l'explication. Préparant récemment, j'ai relu un petit peu tout ça. Les Pères de l'Église analysent certains détails qui, si on ne connaît pas justement l'interprétation des Pères, semblent sans aucune importance. Et donc il faut remarquer 3 choses sur l'évangile d'aujourd'hui. Donc vous connaissez l'histoire, le fils d'une veuve meurt, Anaïm, et son corps est déjà placé dans le cercueil, et le cimetière est porté à dos d'homme, le cercueil est porté à dos d'homme vers le cimetière. Bon, le cimetière c'est le lieu de la mort définitive. La mort définitive, pardon. Donc qu'est-ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ? Première étape, il arrive, il entend les chants funèbres, il voit la foule, il a pitié de cette veuve qui pleure son fils unique. Première étape que fait notre Seigneur Jésus-Christ, il arrête les porteurs. Il arrête les porteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on ne va pas au Père, on ne peut pas deviner. Arrêter les porteurs, c'est quoi? Quels sont ces porteurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Porter l'âme, le corps qui vient de mourir, le porter au cimetière. Eh bien, les Pères de l'Église font remarquer que ce qui nous mène au cimetière, ce qui nous porte au cimetière, c'est les occasions prochaines volontaires de péché grave. Et donc, première étape, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ arrête ça. Donc, il lève la main, arrête les porteurs. Et ces porteurs qui s'arrêtent représentent le pécheur qui, première étape, avec la grâce du bon Dieu, sort des occasions prochaines volontaires de péché grave. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant qu'on reste dans les occasions prochaines de volontaires de péché grave, on ne peut même pas aller se confesser, ça ne sert à rien, parce qu'on se moque du bon Dieu. Ça, c'est la première étape. C'est pour ça qu'il arrête les porteurs. Et arrête les porteurs, ça veut dire, j'étais sur le chemin de l'enfer, je maintenais dans ma vie des occasions prochaines volontaires de péché grave, j'arrête ces occasions, je coupe avec ces occasions, et donc, à ce moment-là, je peux considérer beaucoup d'autres choses. Donc, deuxième étape, c'est à ce moment-là possible. La deuxième étape n'est pas possible, donc la première n'a pas été d'abord consentie. Il faut d'abord arrêter les occasions prochaines de péché. Deuxième étape, les Pères de l'Église font remarquer notre Seigneur Jésus qui touche le cercueil. C'est marqué dans l'Évangile, avec sa main, il va toucher le cercueil. Le cercueil est en bois. Encore une fois, il y a tout un symbole derrière. Pourquoi il touche avec sa main le bois du cercueil? Parce que ce bois du cercueil rappelle le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un premier bois a amené le malheur, le bois de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au paradis terrestre a amené malheureusement la prévarication d'Adam et Ève et la perte du paradis pour chacun d'entre nous. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ va sauver le monde par un autre bois. Et cet autre bois, c'est le bois de la croix. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ qui touche le bois nous rappelle qu'il faut utiliser justement les fruits surnaturels de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quels sont ces fruits? Les sacrements. Donc, la première étape, notre Seigneur Jésus-Christ qui arrête les porteurs, représente la contrition. Contrition qui est nécessaire pour pouvoir s'approcher des sacrements. Deuxième étape, notre Seigneur Jésus-Christ qui applique les mérites de sa croix par le sacrement de pénitence. La deuxième étape, elle n'est possible que dans la mesure où les porteurs se sont arrêtés et ont arrêté de rester sur le chemin qui mène à la perdition. Donc, le sacrement de pénitence est un exemple typique des fruits surnaturels de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la bois et deux arbres, un arbre de malheur, l'arbre du paradis terrestre, un arbre de bonheur, la croix. Un premier Adam qui amène la mort sur le monde, un deuxième Adam qui rétablit la vie surnaturelle, la personne qui était décédée, tuée par le péché d'Adam et Ève. Et troisième étape, encore une fois des détails qui pour nous nous semblent tout à fait superficiels, et qui nous auraient, moi en tout cas ça n'avait pas frappé, les pères d'église disent aussi, font marquer que lorsque le jeune homme est ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce qu'il fait? Il parle. Diabama, que ça veut dire il parle? Les pères de l'Église expliquent, il parle pour réparer ses péchés passés. Donc c'est la troisième étape, la réparation. Première étape, la contrition. Deuxième étape, l'usage du sacrement. Troisième étape, la réparation. La troisième condition pour que le sacrement de pénitence soit validé. Il parle parce que par sa parole, il prouve à tout le monde justement qu'il est vraiment vivant et donc il répare les scandales qu'il a pu donner dans le passé. Alors, on voit très bien, suivant encore une fois les explications des pères, comment justement notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa miséricorde, par les fruits de sa passion, ne demande qu'une seule chose, c'est que tous les pécheurs s'arrêtent dans le chemin de l'enfer, qu'ils se confessent et qu'ils réparent par leur changement dans leur façon de vivre. Bon. Mais la condition, il y a une condition sine qua non. La condition, c'est l'humilité. La condition, c'est l'humilité. Et là, on retrouve l'épître de Saint Paul aux Galates d'aujourd'hui. L'épître explique l'évangile. Et là, il y a un avertissement très fort de Saint Paul. De Dieu, on ne se moque pas. Deus in eruditur. De Dieu, on ne se moque pas. Ça veut dire, attention, Dieu est prêt à pardonner tous les péchés. Dieu, dans sa miséricorde, va vers le pécheur, non seulement il attend que le pécheur vienne à lui, mais il fait plus que ça, il va vers le pécheur, il arrête les porteurs, il touche le bois, il touche le bois du cercueil, et il ressuscite le mort, mais il exige la vertu d'humilité, que celui qui est debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber, dit saint Paul. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Saint Paul dit aussi, si quelqu'un s'imagine être quelque chose, comme il n'est rien, il se séduit lui-même. Donc, se rappeler que la conversion n'est possible que dans la mesure où le bon Dieu nous donne sa grâce. Il ne refuse jamais à qui la demande avec humilité. Mais il faut la demander. Et il faut la demander avec humilité. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Mais justement, si je n'ai pas cette humilité, eh bien, je n'arriverai pas à obtenir ces grâces. Ces grâces sont gratuites du bon Dieu, c'est vrai, mais c'est des grâces conditionnelles quand même. Grâces conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles exigent qu'il y ait une première réponse à la grâce. Certes, la réponse de chacun d'entre nous à la grâce du bon Dieu, même en état de péché mortel, n'est pas possible sans justement une première grâce qui nous amène à accepter la grâce de la conversion. On ne peut pas bouger le petit doigt sans la grâce du bon Dieu. Et donc, ça va nous rappeler, attention, nécessité de l'humilité. Et celui qui sème, dit saint Paul, celui qui sème dans la chair, il récoltera la perdition. Celui, au contraire, qui sème dans l'esprit, Eh bien, récoltera la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'accepte justement de quitter les choses matérielles pour me monter vers le bon Dieu, élever mon âme vers le bon Dieu, à ce moment-là, je vais pouvoir se semer dans les choses surnaturelles et obtenir la vie éternelle. Et donc, je pense que ce texte de ce 15e dimanche après la Pentecôte, justement, doivent nous rappeler l'importance de la vertu d'humilité. Rappelez-vous toutes les grandes condamnations contre le modernisme, et surtout du pape Saint-Pédis, quand il parle des racines du modernisme, toujours l'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. L'orgueil passe par là. Et s'il fallait définir ce qui a justement perverti complètement l'Église de Vatican II, c'est l'orgueil. L'homme qui se tient debout devant Dieu pour dire « je ne servirai pas ». Il faut demander cette humilité. Et la meilleure façon d'obtenir cette humilité, c'est passer par la reine de l'humilité. La reine de l'humilité, c'est la Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui aurait eu le droit de se mettre sur un pinacle avec toutes les grâces qu'elle a reçues, c'était elle. Elle aurait pu dire « ben, je suis la mère du bon Dieu, alors tout le monde à genoux ». Mais non, je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Et donc la Sainte Vierge Marie nous rappelle cette nécessaire humilité, parce que l'humilité amène à la charité. C'est pour ça que le démon pousse vers l'orgueil. Il sait que lorsqu'on pousse l'âme vers l'orgueil, l'orgueil va entraîner un désir des nouveautés, va entraîner l'ignorance. Ignorance, désir des nouveautés, orgueil, les trois signes qui annoncent qu'une âme est en train de devenir moderniste, en train de perdre la foi. Et justement, contre cet orgueil, contre ce désir des nouveautés, contre cette ignorance, qu'est-ce qu'il y a? La dévotion à Notre-Dame Vierge Marie. Donc pensons à cette dévotion à Notre-Dame Vierge Marie. Nous arrivons rapidement au mois d'octobre, le mois du rosaire, le mois conservé et consacré justement à la dévotion vers Notre-Dame. Donc demandons à Notre-Dame de nous maintenir dans l'humilité. C'est elle qui appelle son Fils. Donc la Notre-Dame Vierge Marie, elle voit cette âme qui se précipite en enfer, qui est déjà dans le cercueil, qui va vers le cimetière, alors elle appelle son Fils. Elle appelle son Fils, et qu'est-ce que va faire le Fils? À la demande de sa mère, il arrête les porteurs, il touche de sa main divine le bois de la croix, le bois du cercueil, et puis il nous ressuscite d'entre les morts et il nous fait parler. Mais tout ça passe par la Très-Sainte Vierge Marie. Donc demandons-lui cette grâce, la véritable humilité qui nous mène à la véritable charité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.